La crise en Ukraine, la guerre, a un impact évidemment sur la crise alimentaire mondiale. Est-ce une opportunité pour changer de modèle? La question se pose dans le cadre du festival alimentaire. On aura Benoît de Wagner, qui est au service information et plaidoyer de SOS Faim, et Kadi Tianendoy, qui est une des grandes responsables au Sénégal de ces campagnes.
La première, le fin mot, Eddy Kakelbergs.
Les conséquences de la guerre deviennent très très dangereuses, non seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier. Je répète, je dois encore mettre en garde contre le risque d'une grande famine dans le monde, en particulier en Afrique. Nous soutenons les efforts des Nations Unies pour débloquer les exportations de l'Ukraine. Nous appelons la Russie à débloquer les ports. C'est inconcevable. On ne peut pas imaginer que des millions de tonnes de blé restent bloquées en Ukraine, alors que dans le reste du monde, des gens souffrent de la faim. C'est un véritable crime de guerre. On ne peut donc pas imaginer que cela va durer encore longtemps.
On avait une menace de famine concernant à peu près 50 millions de personnes dans le monde, une augmentation considérable depuis l'an dernier. Pour une partie de ces personnes menacées de famine, cet accord est une très importante nouvelle. Cela va baisser la facture alimentaire des pays importateurs, permettant à des gouvernements de venir au secours des populations dans des bien meilleures conditions.
La première, le fin mot.
Bonsoir à vous deux, Benoît de Wagner, et bonsoir à vous, Kadi Tianendoy, qui est deux passionnés finalement de l'alimentation et qui allez animer aussi la réflexion de ce festival alimentaire. Si je dis que la crise en Ukraine est une opportunité, forcément personne ne l'aurait souhaité comme tel, mais que la guerre en Ukraine est une opportunité pour modifier les comportements. Benoît, vous me dites oui, non, trop court, pas vraiment ça?
Je dirais oui, mais une opportunité qui est perçue par plusieurs acteurs. Et donc nous, tenants de système alimentaire durable, on perçoit ça comme une opportunité de mettre en avant le manque de résilience du système alimentaire dominant. Et donc quelque part, il est plus nécessaire que jamais, et ça le démontre, de le transformer. Mais on a vu après le déclenchement de la guerre en Ukraine aussi les tenants d'une agriculture industrielle, du système dominant actuel, percevoir qu'il s'agissait aussi d'une opportunité. Une opportunité pour mettre en place un narratif qui insiste sur le besoin de produire plus, pour défendre des solutions qu'on estime du passé, ou en tout cas qui venaient par exemple au niveau européen d'être identifiées comme étant dépassées, et les remettre sur la table.
Par exemple ?
Mais par exemple, sur la directive sur les pesticides au niveau européen, elle devait sortir en mars. Et voilà, elle est sortie finalement seulement en juin. Et donc clairement, ce momentum a été utilisé. On a parlé aussi de reports de pratiques plutôt environnementalement positives qui étaient contenues dans la nouvelle politique agricole commune. Et ces pratiques, il y a eu un lobby très fort, notamment du COPACOGECA et d'autres, pour en reporter la mise en œuvre. Et donc c'est évident que c'est un moment de crise, perçu comme tel. Et donc le fait même de parler de crise n'est pas anodin. Nous, plutôt que de parler de crise, on préfère parler d'une couche supplémentaire à un système alimentaire qui fonctionne déjà. Parler d'une crise, ça laisse sous-entendre que les enjeux de la faim étaient plutôt favorablement rencontrés ces derniers mois, dernières années. Or, ce n'est pas le cas.
Sous question, et je vais poser la même évidemment dans un instant à Kadi, mais la guerre en Ukraine, elle n'explique pas tout de la crise alimentaire. Certes, on a vu maintenant, tant que les céréales produites par l'Ukraine étaient bloquées dans les ports ou les silos et que la Russie en interdisait l'exportation, voire même les exportations russes, parce qu'on rappelle qu'elles sont importantes également. On voyait, on nous a dit, risque d'émeutes, crise alimentaire profonde dans un certain nombre de capitales, notamment en Afrique, mais aussi chez nous. Oui, mais tout ça n'explique pas à elle seule, ces choses-là n'expliquent pas à elle seule la crise alimentaire.
Non, donc c'est une question qui n'est pas évidente de répondre simplement, hein, parce qu'il y a différentes choses en cours. On peut dire conjoncturel, on pourrait dire il y a l'enjeu climatique qui est évident et qui frappe nos systèmes alimentaires et notamment les pays dont on vient de parler qui sont les moins responsables du changement climatique et qui pourtant en subissent les plus fortes conséquences. Il y a la question des conflits, hein, différentes zones où les conflits sont très importants, et puis il y a la question de la guerre en Ukraine. Mais en fait, structurellement, ce qu'on voit, c'est que le système alimentaire échoue et les chiffres sont mauvais depuis 2017 en matière d'enjeux de la faim. Or, 2017, on était pré-Covid, on était pré-guerre en Ukraine. Et donc, l'impasse est beaucoup plus structurelle. Et c'est pour ça qu'on pousse à une transformation basée sur l'agroécologie et une série de principes. Et on a des démonstrations que ça peut fonctionner dans différents contextes. Donc, évitons un raccourci. L'enjeu du système alimentaire est complexe. Je pense que, pour revenir à votre première question, s'il est une opportunité autour de cette guerre en Ukraine, c'est pour alerter et démontrer qu'on doit changer radicalement.
Alors, il existe un institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, SICODEF, SICODEF Afrique. C'est quelque chose que vous connaissez bien, Kadi Diané Ndoye. Vous êtes sénégalaise, vous êtes chargée du programme Accès durable à une alimentation saine et nutritive de SICODEF Sénégal. Est-ce que la crise ukrainienne vient augmenter sensiblement, déjà première question, la crise alimentaire en Afrique en général, dans votre environnement au Sénégal par exemple?
Bonsoir et merci pour l'invitation. Il faut savoir que ici au Sénégal, tout choc économique en Europe a forcément des répercussions dans notre pays en raison des différents liens qui existent entre les économies. Et en tant qu'organisation de consommateurs, de défense des consommateurs, la flambée des prix des denrées de première nécessité sur les marchés crée vraiment cette tension difficilement supportable pour les ménages, surtout les plus défavorisés. Et avec cette situation conflictuelle, les prix ont triplé sur certaines denrées alimentaires et bizarrement affectent aussi les produits locaux. Voilà, sous prétexte que certains intrants sont importés comme les engrais, etc. Donc l'impact qui se fait ressentir, l'impact de cette guerre, de cette crise, se fait ressentir au niveau de chaque maillon de la chaîne alimentaire. Au Sénégal, avec l'importation, la cherté des engrais, on a également la même chose au niveau du secteur de l'élevage. Aujourd'hui, l'aliment de bétail qui coûtait à environ 19 euros est maintenant passé à 31 euros. Et le poulet qui coûtait 3 euros maintenant est entre 5 euros et 6 euros. Voilà, c'est vraiment des situations qui sont difficiles pour les consommateurs les plus défavorisés. Et SICODEF, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, on est au-delà d'une organisation de consommateurs, on a une perception plus large de la consommation, donc beaucoup plus grande. Donc on est plus une organisation de développement et surtout de plaidoyer, documenté pour des politiques publiques plus favorables aux besoins des consommateurs.
Oui, mais comment peut-on, Kadi, comme vous le faites, tenter de prôner chez vous et chez nous, par la même occasion, une meilleure expertise en termes de circuits courts, de consommer local, si l'impact sur les prix de ces produits locaux, lui aussi, se mesure parce que les intrants restent, vous l'avez dit, un phénomène peu mesurable ou peu maîtrisable sur place?
Donc aujourd'hui, l'impact de cette crise soulève une autre question très importante que de nombreux Africains ont relevé. C'est que comment aujourd'hui, un continent comme l'Afrique, qui est aussi riche en matières premières, en terres fertiles, peut être aussi dépendant de l'importation de certaines céréales. Au Sénégal, cet impact, la crise a fortement perturbé l'offre et la demande. Et le gouvernement sénégalais a pris l'option d'engager un processus de réflexion et de formulation d'un programme agricole autour de la souveraineté alimentaire et durable. Donc cette question de la souveraineté alimentaire, de replacer l'agroécologie au centre des préoccupations, le consommer local, la production locale, est maintenant au cœur des discussions avec la société civile, avec les ministères sectoriels, avec les acteurs de la chaîne alimentaire. Donc on va vers cette voie qui est l'agroécologie, qui est maintenant l'alternative aussi bien pour le changement climatique, pour la lutte contre le chômage. Et actuellement, en fait, cette crise, pour répondre à votre première question concernant l'opportunité, nous, on le prend comme une opportunité de pousser l'agroécologie, de pousser toutes les questions communautaires, de développement communautaire à travers les systèmes alimentaires durables et territoriaux réalisés.
Oui, Kadi, comment espérer raisonnablement favoriser cette autosuffisance, cette reprise en main des terres, cette reprise en main des marchés quand on sait que face à vous se trouvent d'immenses multinationales? Si je prends que les producteurs de semences ou les producteurs d'engrais, c'est gigantesque et on sait qu'ils ont organisé pendant des années le coût des semences non réutilisables et le coût des engrais non maîtrisés par vous.
Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la DITAES, qui est la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, qui est un réseau constitué d'une cinquantaine d'organisations de la société civile, dont les chercheurs, les organisations de producteurs, les consommateurs, les secteurs privés, tous engagés vers cette question de transition agroécologique, de replacer l'agroécologie dans les territoires. Donc avec les actions de plaidoyer que nous menons auprès de l'État, auprès du ministère de l'Agriculture, on est arrivé à avoir une subvention des engrais organiques auprès du ministère de l'Agriculture pour impulser cette prise en charge de la question des engrais auprès des producteurs à la base. Et avec ça, et avec toutes les actions de plaidoyer, de sensibilisation avec les communautés au niveau des territoires et au niveau national, donc à différents niveaux d'échelle, on arrive aujourd'hui pas à faire face, bien entendu, aux multinationales, mais on arrive quand même à impulser cette dynamique communautaire à qui on espère qu'il va grandir et par effet de masse toucher l'ensemble des territoires du Sénégal. Donc c'est un travail de longue haleine et on est là-dessus et on espère d'ici à court terme qu'on aura quand même cette territorialisation de l'agroécologie au Sénégal.
Oui, Benoît Wagner, question que je reposerai dans une mesure aussi à Kadi. Vous parlez clairement d'une sécurité sociale alimentaire. Quand on sait déjà que chez nous, les temps que nous traversons pour l'instant sont là, les prix flambent sur l'énergie, les prix flambent sur à peu près tout. Comment assurer une sécurité sociale et alimentaire qui ne passe pas par le prix le plus bas? Or, en règle générale, ces temps-ci, les prix les plus bas, ce n'est pas le circuit court.
Non, c'est vrai. Et on sait qu'en Belgique, vous parlez de Belgique, et ben, les acteurs de circuit court sont particulièrement confrontés à ça. Il y a eu un mouvement positif, on dirait, au moment du Covid. Et puis là, ben, avec la réalité du pouvoir d'achat des ménages, ça impacte. Donc, l'idée d'une sécurité alimentaire, c'est de se dire qu'il y a un bénéfice sociétal à promouvoir des pratiques agricoles qui sont durables, inspirées de l'agroécologie, etc. Donc, il y a un bénéfice sociétal très important en termes environnemental, de santé publique, etc.
Mais imposer un effort de plus, pour l'instant, ça va être dur de convaincre.
Mais donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, certains profitent de la crise. Hein. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de taxer les surprofits des producteurs d'énergie ou des grands groupes industriels de l'énergie. En fait, les quatre grands négociants agricoles aujourd'hui font des profits qui sont faramineux. Ce qui pose d'ailleurs une question, celle de la spéculation. Parce qu'en fait, comme les stocks publics sont fortement réglementés, la plupart des céréales, ou en tout cas, on a très peu de visibilité sur les stocks qui sont publics, mais il y a aussi énormément de stocks privés. Kadi le dira peut-être, il y a des commerçants qui spéculent à l'échelle très locale et qui profitent de l'augmentation des prix, parce que, pour être très concret, le jour où la guerre en Ukraine s'est déclenchée, on avait des augmentations de prix très importantes sur les marchés, alors que les stocks avaient été achetés à un prix qui n'était pas celui du marché actuel. Donc il y a quand même cette réflexion générale sur la façon dont la spéculation peut impacter les prix. Et donc, certains ont des profits. Et donc, notre proposition, c'est qu'il est évident qu'il faut accompagner les personnes les plus vulnérables. C'est des mots qui résonnent souvent dans l'imaginaire avec des pays d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie, en disant des personnes pour qui l'accès à l'alimentation, le droit à l'alimentation est difficile.
Oui, mais ça devient le cas chez nous.
Ça devient tout à fait une réalité chez nous. Et donc, on a la chance d'avoir des États qui ont démontré qu'ils ont une capacité d'intervenir. Et donc, faciliter la transition, ça passe par réduire les inégalités dans le système alimentaire et mettre en place des dispositifs qui permettent l'accès à une alimentation durable, de qualité, choisie par l'ensemble des populations en Belgique ou ailleurs.
Kadi, sur cette question-là, avec cette emphase sur le fait qu'il y a effectivement des bourses de céréales et de matières premières alimentaires et que donc le grand public pense que la spéculation se fait sur des actions et des obligations. Non, il y a de véritables spéculations, même parfois plus fortes et plus incroyables, sur les denrées.
Oui, tout à fait. Parce que là, récemment, on a fait une enquête au niveau du Sénégal pour voir les différents prix des denrées alimentaires et comment les consommateurs le perçoivent avec l'arrivée de la crise à la suite de Covid-19. Effectivement, il s'est avéré que les prix sont excessivement chers sur le marché et avec beaucoup d'intermédiaires, donc une chaîne alimentaire avec pas mal d'intermédiaires sur différents maillons de la chaîne. Et ça, c'est ça qui fait qu'effectivement, nous, on est plus sur des questions d'accès à l'alimentation, mais pas encore sur des questions de choix. Parce qu'il y a vraiment cette difficulté d'accessibilité géographique avec les changements climatiques, avec les différentes pluies, la saison des pluies qui rend difficile l'accès géographique aux produits aux denrées de première nécessité. Et tout ceci est devenu plus qu'urgent avec vraiment ce changement climatique et les systèmes de production et de consommation durable sont actuellement au cours de toutes les réflexions dans tous les domaines. Donc c'est la raison pour laquelle on est de plus en plus contraint d'aller vers ces systèmes alimentaires et surtout face aux différentes menaces que représentent le changement climatique, les phénomènes migratoires, le chômage, etc. Donc pour nous, Sicodev, nous pensons que pour que la communauté puisse être consciente de tous ces enjeux et la nécessité de changer vraiment de paradigme, il est nécessaire d'adopter ces stratégies-là autour de l'information, la sensibilisation, le plaidoyer, en faveur d'une alimentation saine, durable, mais aussi en faveur de la transition agroécologique.
Je vais être insistant, évidemment, mais quand on mesure les lobbies qui sont à l'œuvre, les spéculations qui sont à l'œuvre, les spéculateurs qui sont à l'œuvre sur les denrées de base, mais aussi sur les intrants, on mesure sans doute aussi alors le phénomène de corruption qui peut accompagner ce genre de faits, ce genre de groupes. Comment résister à ce que des responsables soient corrompus et n'entendent pas ce que vous dites, Kadi?
Oui, c'est vrai que cette question de corruption, elle est vraiment importante et ancrée, en fait, je pense que dans pas mal de sociétés africaines. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie tout le temps d'aller travailler avec les organisations de producteurs, les acteurs qui sont à la base. Donc, c'est avec eux qu'on travaille pour monter des communautés de masse qui vont après faire face à toutes ces contraintes rencontrées dans les marchés. Voilà, c'est vraiment cette mobilisation sociale suffisamment renforcée sur les politiques à travers des recherches documentées pour qu'eux qui puissent se mettre au devant de la scène et aller se confronter face à ces situations complexes, face à des décideurs, face à vraiment tous les éléments que vous venez de dire. Mais je veux dire la corruption, elle est là et effectivement, ça rend difficile le travail de certaines organisations.
Oui, Benoît de Wagener, ce que l'on parle ou évoque en termes de corruption là-bas, on va peut-être pudiquement ou politiquement correctement l'appeler lobbying ici, mais l'impact reste le même.
Oui, on l'a vu, enfin, il y a des organisations spécialisées, mais le nombre de lobbyistes qui travaillent pour le secteur agro-industriel à Bruxelles est faramineux. Et donc, même nous, ONG ou partenaires ou alliances, on essaye de lutter avec nos armes. Mais c'est vrai que les rapports de force sont tellement inégalitaires. Et donc, ça me fait penser, en entendant Kadi, je pense qu'une des plus-values de Psychodev, c'est que c'est un mouvement qui travaille à connecter des urbains et des ruraux par rapport aux systèmes alimentaires. Et je pense que c'est quelque chose qui est crucial et qui se développe de plus en plus en Belgique aussi. On voit des agriculteurs qui se plaignent d'agribashing, par exemple, etc. Et donc arriver à dépasser ça pour dire que l'action de l'alimentation, elle nous appartient à tous et donc à se mobiliser, je pense que c'est crucial. Et cet été, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhri, a sorti un rapport où il faisait sa propre lecture de la crise assez proche de la nôtre en poussant pour l'agroécologie et en demandant une série de choses aux États, notamment en termes de spéculation par rapport aux agrocarburants aussi, qui sont des éléments qui pèsent sur les prix. Et puis terminer en disant, mais ceci ne se réalisera que si les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les agricultrices, les consommateurs, les citoyens créent de nouvelles relations de solidarité. Donc, si on veut faire changer les choses, si on veut contraindre les États à agir, il faut créer ces alliances. Je pense que c'est tout le sens de ce que Psychodev fait ou de ce que nous, on essaye de faire aussi à notre échelle en alliance ici en Belgique.
Quand vous parlez d'agroécologie, vous dites l'agroécologie fait l'objet d'un consensus grandissant dans la communauté académique. Mais la communauté académique n'est pas celle qui est réputée pouvoir créer ce nouveau lien que vous venez d'évoquer.
Non, c'est vrai. Enfin, en vous entendant, ce qui me marque, c'est qu'en termes de récit, on nous a longtemps dit la question de la faim dans le monde est un problème de disponibilité. Il n'y a pas assez, on va être 10 milliards d'êtres humains sur Terre, il faut produire plus. Et ça, c'est quand même un récit qui met en place un schéma de pensée qui laisse, notamment dans notre rapport à l'environnement par rapport aux questions de biodiversité, etc., qui a vraiment tendance à renforcer un schéma d'exploitation et qui encourage une série d'innovations technologiques qui sont en tout cas inaccessibles et qui entretiennent la dépendance des producteurs. Et donc, je crois qu'il faut briser ce schéma. Et là-dessus, quand même, on peut s'appuyer sur ces évidences académiques. Bon, ça pose la question aussi des rapports de pouvoir dans la création du savoir et la façon dont, effectivement, ces acteurs financent des études, y compris des chercheurs académiques qui acceptent de collaborer. Et donc, heureusement, il y a certains scandale, on a parlé du glyphosate ou autre, qui souligne que voilà une recherche académique publique qui démontre que l'agroécologie ça fonctionne. Ça permet, j'espère, de dépasser cette question de la disponibilité pour parler des questions d'accessibilité en termes de nourriture. Vous parliez de la sécurité sociale de l'alimentation ou de poser la question différemment. On doit, à mon avis, réclamer que les acteurs des systèmes alimentaires aient le droit de formuler la question qui les concerne plutôt que de le laisser à certains groupes privés.
Kadi, à ce propos, au Sénégal ou ailleurs de votre expérience, parce que, effectivement, Benoît Wagner vient de rappeler que c'était la question du lien entre l'urbain, entre l'habitat urbain et le rural. Est-ce que les mentalités changent parce qu'il y a des générations qui naissent dans les grandes villes, à Dakar ou ailleurs, qui probablement n'ont même plus conscience de ce qu'est un circuit court?
Alors là, je dirais que les mentalités changent parce que on travaille beaucoup avec les jeunes, donc les écoliers, les élèves, parce qu'on sait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il est intéressant de travailler pour pouvoir après juger des résultats sur le long terme. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que le CICODEV joue vraiment ce travail de lien entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, ensemble, avec les collectivités territoriales, avec les municipalités, pour créer vraiment cette dynamique, ce cadre de concertation, de réflexion autour des enjeux et les problématiques liées à l'alimentation au sein des territoires. Et aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eue, je veux dire, il y a 6 ans, 7 ans de travail qu'on est en train d'expérimenter ça, on voit qu'il y a des changements. Les acteurs sont de plus en plus intéressés sur ces questions-là et par ricochet, les ménages, les enfants, les élèves derrière aussi suivent. On est en train de tester aussi des échanges en milieu urbain, entre milieu urbain et rural, les différents modèles qui peuvent exister. Et on sent que voilà, les solutions sont là, les actions sont là, les communautés sont de plus en plus engagées. Et il y a aussi cette question de changement de mentalité. Les acteurs aussi sont de plus en plus orientés vers la consommation locale, vers de nouvelles recettes, des recettes innovantes anciennement oubliées. Et les élèves aussi derrière prennent ce leadership-là de créer ce mouvement pour aller vers des régimes alimentaires sains.
Pour en avoir le fin mot, quand même, Benoît de Wagner, parce que le temps file vite, comment connecter le paradoxe de devoir lutter contre le stockage qui vise à la spéculation en retenant des denrées, en créant la raréfaction, etc., d'une part, et le nécessaire stockage pour faire face à de mauvaises récoltes, à des phénomènes climatiques et pour assurer la sécurité alimentaire?
En un mot, je pense qu'il faut refaire de l'alimentation un bien qui n'est pas comme les autres. Manger, c'est quelque chose d'essentiel, et donc c'est un droit. Et donc simplement, il faut le sortir probablement d'une mécanique qui est purement de marché pour donner à l'État et à une structure de gouvernance qui laisse la place à chacun des acteurs, le rôle qui lui revient sur cette question-là. Donc c'est alors qu'on parle de souveraineté alimentaire.
D'un mot sur ce sujet, Kadi?
Oui, très intéressant cette question de souveraineté alimentaire, d'autant plus qu'on sait qu'au Sénégal, il y a une nouvelle loi sur la biosécurité qui autorise les OGM qui a été récemment adoptée au Sénégal. Et c'est quelque chose que nous, société civile, en particulier CICODEV, qu'on regrette, parce que c'est un processus d'élaboration d'une loi qui vraiment ouvre la porte aux OGM sans un vrai processus de consultation inclusif et participatif avec les différents segments de la société civile. Donc oui, on a vraiment ce paradoxe-là. D'une part, on est en train de mettre en place un programme agricole sur la souveraineté alimentaire et d'autre part, il y a des lois qui existent et qui autorisent cette question des OGM. Donc actuellement au Sénégal, la société civile est vraiment sur le qui-vive pour lutter, faire en sorte de ralentir l'adoption de cette loi. Et avec CICODEV et le plaidoyer, on est en train de mener un fort plaidoyer à ce niveau avec les parlementaires, avec les nouvelles élections législatives. On est tous vraiment debout pour vraiment dire non aux OGM. Donc cette question de souveraineté alimentaire, elle est vraiment importante et elle est au cœur même des discussions politiques actuellement au Sénégal.
Merci pour toutes ces précisions. Le Festival alimentaire, c'est du 13 au 17 septembre à Bruxelles au cinéma et galeries et puis de manière décentralisée dans les villes. Vous trouverez tous les renseignements. Merci à vous deux d'être venus nous donner le fin mot ou quelques fins mots de ce gros dossier.
Le fin mot sur la première.